France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Mozart Obaskite, né en Lituanie. Je suis pianiste, concertiste.
Mozart Obaskite a évoqué hier sa rencontre avec le compositeur Krzysztof Penderecki. Si le concerto pour piano reste l'une de ses œuvres préférées, la pianiste a finalement assez peu abordé le répertoire contemporain.
Voilà le problème, c'est pas pour rien que j'attendais mon concerto, c'est pas pour rien que j'ai pris affamé à prendre Penderecki sans engagement. Parce que je trouvais pas l'œuvre de 20e pour moi. Évidemment, il y a quelques œuvres de Lutoslavski qui me parlent. Il y a d'autres, mais j'ai cherché la composition d'aujourd'hui qui traite le piano à la manière, si je peux dire, de 19e ou de manière de 20e. Je parle pas des harmonies, je parle pas des couleurs, je parle de métier de pianiste. Je ne crois pas que le piano est un instrument de percussion comme il est plupart du temps traité dans les musiques d'aujourd'hui. Je veux avoir le piano chantant, je veux avoir le piano avec toutes ses capacités virtuoses de listien au chopinien. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est rare de trouver dans la musique d'aujourd'hui. Et puis, si je pourrais souhaiter, je souhaite la spiritualité, pas seulement la rude réalité d'aujourd'hui. Je cherche toujours, j'adore la jouer, mais je suis extrêmement exigeante. Je peux pas faire mieux que l'ordinateur dès qu'il s'agit de la musique répétitive, ça m'intéresse pas. Je cherche la musique colorée, parlante, évidemment avec la langue d'aujourd'hui.
Et la composition, on vous a entendu au tout début de cet entretien, composer, c'est quelque chose qui vous a complètement quitté ou est-ce que ça vous arrive d'improviser, de composer, d'arranger la musique?
La composition, je l'ai fait professionnellement jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai étudié. J'avais les maîtres, les quelques compositeurs de renommée. Et après, j'ai dit non. D'abord, je suis une femme, je dois dormir les nuits au lieu d'avoir une idée fixe et composée. Je veux vivre confortablement et dormir bien. Et autrement, je courtoie les chefs d'œuvre, je ne peux pas faire quelque chose, des gribouilles que j'ai écrites. Ce ne sera jamais suffisant parce que je courtoie trop des chefs d'œuvre. Je entre là-dedans dans les tableaux des maîtres. C'est comme entrer dans une Joconde. Alors à partir de là, mes dessins me paraissaient un peu réducteurs. Ce n'est pas définitif. Peut-être c'est une partie remise. Peut-être au lieu de chercher les autres, il faudrait mieux que j'écrive moi-même. Vous me posez les questions intéressantes là.
un chapitre qu'on n'a pas évoqué, qui est l'enseignement. Vous avez beaucoup parlé de vos maîtres, vous avez beaucoup reçu, vous avez aimé les nommer, de Jakob Flier à Bella Davidovitch, mais vous êtes aussi professeur, vous avez enseigné dans plusieurs lieux, plusieurs institutions. Quel lien vous accordez à l'enseignement ? Est-ce que vous avez des élèves que vous suivez depuis des années ? Est-ce que c'est plutôt sous forme de masterclass et des rencontres qui se font à un moment précis d'une carrière ? Est-ce que vous enseignez à des enfants, à des professionnels ? Quel est votre lien à l'enseignement, Moutza ?
Ça fait partie de la mission, car être pianiste concertiste, c'est une mission. Mission aussi transmettre l'art de piano, transmettre aux autres ce qu'on a reçu de nos maîtres. Moi, je viens de la famille des enseignants, comme je vous ai évoqué au départ. Et j'ai toujours vécu avec les professeurs de musique. Ma tante enseignait du matin jusqu'à le soir à la maison. Et par les élèves, par ce qu'ils jouaient, par leur répertoire, tout en étant petit enfant, je savais que c'est Valérie qui vient ou c'est Eugénie qui vient parce que c'était le prélude de Bach ou de Mozart. Donc, je suis toujours baignée dans l'enseignement. Cependant, je suis une artiste interprète et je ne passe pas énormément de temps en enseignant. Néanmoins, je suis toujours le professeur des universités à Vilnius. Je me rends régulièrement. Je donne les masterclass réguliers là-bas. Également dans mon alma mater, école des enfants surdoués, qui existe toujours. Et aussi pour la fondation Rostropovitch des enfants surdoués de la Lituanie. C'est très important de dénicher les nouveaux talents et de les donner les pépites d'or que j'ai reçues de mes maîtres, que j'ai trouvées moi-même. Et j'aime faire ça. La semaine prochaine, je vais en Lituanie et je vais enseigner 3 jours durant dans les différentes institutions. Et je fais ça plutôt bénévolement parce que je trouve que s'aimer les grains dans mon pays est très nécessaire.
Et vous pensez qu'il y a des écoles de piano différentes ? Vous diriez que vous appartenez à l'école russe ? Est-ce que ça représente quelque chose ? Ou est-ce que c'est une sorte d'utopie des commentateurs, des musicologues ou des journalistes de parler d'école du piano ?
Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de l'école parce qu'avec Internet, avec le monde qui bouge, avec tous ces échanges-là, ça pourrait être presque sectaire, parler des écoles. Cependant, on n'est pas les créateurs, nous, les interprètes. On suit la tradition. On suit la tradition qui vient de compositeurs. On est passeurs par rapport aux compositeurs. On déchiffre quelque chose qui était fait avant nous. Et juste, je trouve très dangereux aujourd'hui de venir et dire, moi je vais jouer comme ça, je vais faire plein de lumière sur scène, je vais faire plus vite que vite, ou je vais faire plus doux que doux. Et quand même, il y a le message de compositeur, il y a transmission, enseignement de comment et pourquoi c'était écrit. C'est pas une école, c'est une tradition d'interprétation qui est tradition mondiale, qui doit être suivie. On ne peut pas être déraciné de cette tradition, sinon on est légumes hors sol. On est les tomates qui sont poussées sur le boîte imbibé d'engrais. On doit venir dans la terre qui a nourri Liszt, qui a nourri Beethoven, qui a nourri Bach. On ne peut pas venir de l'extérieur et dire « Non, aujourd'hui, à la mode, et jouer comme ça. »
Il ne s'agit pas de généraliser, mais c'est vrai que, effectivement, par l'accès à Internet, on peut se dire aujourd'hui qu'il y a un peu une manière pour ces jeunes artistes, ces jeunes pianistes, un peu uniformisés aussi, d'aborder le répertoire, et que la différence qu'il pouvait y avoir à l'époque entre un Richter et un Serkin, qui étaient peut-être deux mondes totalement différents, ne se retrouve plus vraiment aujourd'hui dans cette jeune génération, un peu perdue aussi peut-être face à l'interprétation des œuvres.
C'est ça, c'est pour cela que j'ai donné la métaphore de la terre et des racines. Quand on écoute dans les concours internationaux, les jeunes jouent lisse, les jeunes jouent impersonnel, ils jouent un petit peu plus vite, un peu plus long, mais ce ne sont pas les personnalités, très souvent. En revanche, il y a plusieurs personnalités sur scène qui, à mon goût, se permettent d'inventer les choses qui viennent de l'extérieur, de la racine même de l'œuvre ou du compositeur. C'est-à-dire, c'est ça qui me dérange, ce côté lisse, impersonnel, ou ce côté personnel, mais pas personnel de compositeur, à travers la personnalité d'interprète, avec énorme respect envers le compositeur, mais juste un sort de voyageur de l'extérieur qui vient, qui dit « Dorénavant, je vais jouer Chopin comme ça ». C'est ça, je trouve, très contrasté et très dangereux. Et en revenant vers la racine même, vers la partition même, on peut trouver notre personnalité et on peut ne pas déformer la personnalité de créateur.
Les grands entretiens de Muzaru Bakhtiné, France Musique.
En 1998, Muzaru Bakhtiné, vous avez reçu la Légion d'honneur du président lituanien. Vous avez été aussi ambassadrice, je crois, pour la ville de Vilnius lorsque ça a été capitale de la culture. Vous avez créé un festival de piano à Vilnius. Vous retournez souvent dans votre pays. C'est important d'avoir une part active aujourd'hui encore avec vos racines.
Oui, Lituanie, c'est mon pays. Je suis lituanienne dans l'âme et de nationalité. J'ai jamais quitté la Lituanie tout en habitant en France, tout en adorant la France. Je suis lituanienne parisienne. Le pays m'a beaucoup donné. Je me suis battue pour ce pays-là. Ce pays a une grande culture, grand courage. J'admire ce pays. Et mon seul envie de lui rendre ce que j'ai appris, ce que je peux trouver de beau dans le monde. D'où la démarche de créer le festival Vilnius Piano Festival, qui aura 10 ans cette année, en novembre prochain. Et ce festival, je fais tous les 2 ans, car j'ai d'autres occupations. Mais c'est le festival qui se passe à la Philharmonie nationale où j'essaie de trouver chaque année un thème qui n'est pas juste un thème musical, mais souvent thème philosophique. L'année dernière, j'ai eu le festival que j'ai nommé Passeur. Et j'avais dans ce festival toutes sortes de passeurs. Passeurs dans le sens maître-élève, passeurs dans le sens des transcriptions, passeurs dans le sens entre musique figurative et non, entre les inspirations extra-musicales. Donc j'essaie de trouver les thèmes. Cette année, ce sera le thème autour de Clara. J'ai appelé ça Clara Schumann. J'ai appelé ça la vie et l'amour d'une femme. Et ce sera autour de Clara et de ses hommes, si on peut dire ainsi, de Brahms et de Schumann. J'essaie aussi de dénicher les nouveaux gagnants des grands concours internationaux que j'invite en primeur à Vilnius. Et comme ça, j'essaie de tracer une ligne et en quelque sorte, à ma manière, éduquer mon public d'écouter la musique de piano.
Aujourd'hui, vous vous enseignez en Lituanie, vous y retournez souvent. Est-ce que la jeunesse a encore ce rapport à cette histoire? Est-ce qu'on sent quand même un peuple qui est encore soucieux de cette indépendance, de cette histoire?
Je crois que nous sommes très patriotes. Peu importe est-ce qu'on a vécu l'histoire d'indépendance, soviétisme et tout ça. Ce qui m'enchante et qui me paraît incroyable, on bouge énormément. Les Lituaniens sont devenus comme les Hollandais, ça bouge en permanence. Mais il n'y a aucun qui perd le lien avec le pays, aucun qui oublie la langue, ni chant. À Noël, tous les Lituaniens du monde entier reviennent à la maison, comme les oiseaux. Et premier de long, j'envoie une série des emails à tout vent. Et je dis que c'est la porte ouverte. Il est à mes anciens élèves, il a les ambassadeurs, il a des amis. Et il a la moitié de Vilnius qui passe dans ma maison pour un champagne, pour autre chose, 1er janvier. Donc les gens reviennent, les gens ont les racines extrêmement solides. Donc c'est positif.
Et votre maison en Lituanie, c'est toujours la même? C'est celle de votre enfance ou vous avez changé de maison?
Malheureusement, dans le temps soviétique, on n'avait pas nos propres biens. On était les locataires d'État. Il n'y avait personne qui avait ses propres biens. La maison qui nous appartenait était prise par le pouvoir soviétique, la grande maison de famille, et on n'a jamais vécu là-bas. Nous avons vécu dans la vieille ville toujours, de Vilnius, dans la belle maison dont je vous ai parlé au départ. Bel appartement, il faut dire. Mais ça ne nous appartenait pas. Par contre, quand j'ai gagné le concours Liszt à Budapest, j'étais interdit de passeport, mais l'État soviétique m'a attribué un appartement. C'était vraiment carottes et bâtons. Et j'ai reçu un appartement en duplex dans la vieille ville, vraiment au cœur de la vieille ville, où j'habite toujours. J'ai racheté cet appartement, évidemment, aujourd'hui. C'est mon petit bonheur miniature. C'est mon petit château miniature où il y a chaque objet artistique. Il y a les peintres qui sont peints les niches. Il y a les vitraux qui étaient faits par les artistes. Il y a plein de choses artistiques dedans et c'est vraiment un petit palazzo.
Et peut-être qu'on peut dire un mot du lieu où vous nous accueillez aujourd'hui pour cette interview, puisque c'est aussi votre appartement, votre lieu parisien qui a appartenu à un compositeur, ou en tout cas qui...
Oui, nous sommes ici chez Berlioz, chez Hector Berlioz. Là, vous voyez la terrasse de Méros. C'est mon nouveau hobby depuis 5 ans. Et cette maison appartenait à Palefrenier de Berlioz. Il y a les écuries en bas où je tiens mes valises, ma bibliothèque, notothèque et mes robes de concert.
Et juste derrière moi, le piano.
Derrière vous, il y a le grand Steinway que j'ai acheté à la Maison de Culture de Bourges. Et c'est le piano sur lequel Richter a joué tant d'autres grands pianistes.
Aussi un peu à Genève, je crois.
Oui, mon homme habite Genève.
Votre mari est médecin, c'est ça?
Mon mari est un médecin, mais ce serait très réducteur de l'appeler ainsi, parce que c'est un homme de lettres, il a écrit 19 livres, c'est un scientifique dont 600 articles sont classés et respectés dans le monde de la science. C'est quelqu'un qui peint, qui danse, qui joue le violon dans un orchestre qui s'appelle Orchestre de Genève. Donc c'est un homme extrêmement intéressant à vivre. J'adore son pays, sa famille. J'adore la nature de son pays. C'est très placide, c'est très beau, c'est très ressourçant.
Vous avez parlé effectivement de presque l'au-delà que cherchait Franz Liszt à travers la musique. Vous disiez que vous attendiez aussi dans la création aujourd'hui un appel vers l'ailleurs. Est-ce que vous diriez que la musique est pour vous un accès à une sorte de spiritualité, de religion ou de quelque chose de mystique? Et d'ailleurs, je me dis, si vous n'étiez pas pianiste, je pense que vous seriez peut-être organiste, qui a peut-être un lien avec une spiritualité.
Vous avez bien vu, j'ai consacré pas mal des heures pour interpréter les œuvres des organistes. Et quand on dit organiste, forcément, on dit les gens mystiques et spirituels. J'ai enregistré un certain nombre d'œuvres de César Franck, de Vierne, aussi de Julius Röpke. C'est vrai, ce monde spirituel, extraterrestre, symbolique est important pour moi. Déjà, en travaillant l'instrument, on entre en état de hypnose quand on travaille et on passe plusieurs heures en travaillant et en méditant finalement avec son instrument et à travers l'œuvre. Donc l'état ailleurs est l'état presque normal pour un interprète, ou pour un compositeur, pour un musicien. Oui, je ne suis pas très loin de cette spiritualité à travers l'art.
Ainsi se termine cette semaine consacrée à la pianiste Muza Rubaskité que nous avons rencontrée à Paris le 8 avril dernier. Vous retrouverez toutes les références des musiques diffusées sur le site des Grands Entretiens, des émissions d'ailleurs que vous pouvez podcaster. Sachez également que Muza Rubaskité vient de terminer l'écriture d'un livre qui retrace son parcours. Merci à Gilles Blanchard qui a réalisé cette émission avec Raymond Albuy, Valérie Lavalard et Flora Sternadel.
À réécouter sur francemusique.fr.